Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À 2 heures en voiture de Toulouse, au bout d'une route à flanc des monts de la Cône, cachée dans l'une des vallées, se trouve Pratelon. Pratelon, un lieu situé dans le diocèse d'Albi où vit le père Daniel Ange depuis 30 ans, la plupart du temps dans un ermitage. Ancien moine, puis ermite, le père Daniel Ange est le fondateur de Jeunesse Lumière, une école internationale d'évangélisation. Pour ce carême, nous avons choisi d'aller interroger ce grand spirituel sur les trois piliers de ce temps vers Pâques, la prière, le jeûne et l'aumône. Troisième émission de cette série, l'aumône. Père Daniel Ange, bonjour.
Bonjour, bonjour à chaque auditeur, auditrice, en ce beau carême de joie qui nous conduit à Pâques.
Merci beaucoup en tout cas de nous recevoir. Donc c'est la troisième fois qu'on vous retrouve pendant ce carême. C'est donc notre série de carême avec vous. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les deux précédentes, je reprécise qui vous êtes à très gros traits et puis vous compléterez éventuellement si besoin. Voilà, vous avez été moine, vous avez été ermite et puis donc il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, le Seigneur vous a appelé donc à vous occuper de la jeunesse et à fonder donc une école qui s'appelle Jeunesse Lumière, donc école d'évangélisation, qui s'adresse aux jeunes français, mais pas que. Il y a des jeunes qui viennent du monde entier ici, donc dans le diocèse d'Albi, à Pratelon, perdu dans les montagnes, pour se former pendant un an donc à cette vie chrétienne et se former à l'évangélisation.
Exact.
Voilà, donc pour dire très rapidement, on a fait des émissions sur Jeunesse Lumière, donc j'invite les auditeurs qui voudraient en savoir plus à écouter cette émission sur Jeunesse Lumière. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on vous retrouve pour cette troisième émission de série de carême, donc cette fois sur le thème de l'aumône. Alors l'aumône, vaste sujet, déjà c'est un terme un peu jargonneux. Peut-être faut-il tout simplement expliquer ce que c'est que l'aumône, c'est le partage.
Voilà. Moi je crois que l'aumône c'est identique de partage. Tu partages ce que tu as, ce que tu as reçu, tu ne gardes pas tout pour toi, tu n'es pas un égoïste, c'est la victoire sur l'égoïsme. Tu t'ouvres, tu accueilles, plus pauvre que toi, plus besogneux que toi, voilà, tu ne veux pas te replier sur tes petits trésors, voilà. Tu donnes tout ce que tu peux donner. Alors, sachant que cela te sera rendu au centuple, en tout cas au ciel.
Ça n'est pas spécifiquement chrétien. On sait que les Français sont généreux en dépit de la crise.
Bien sûr,
qui donnent toujours plus aux associations, ils donnent de leur temps.
Mais oui, je crois que tout cœur bien né éprouve une compassion, si tu veux, pour le pauvre, toutes les formes de pauvreté. Mais sûrement qu'un disciple de Jésus l'éprouve de manière encore beaucoup plus aiguë.
Tu vois, voilà. Alors quelle différence vous feriez
besoin du cœur.
Voilà, quelle différence vous feriez? Qu'est-ce que le partage chrétien aurait de particulier?
Et bien, c'est d'abord que, comme dit Jésus lui-même, tu vois la personne de Jésus en chaque pauvre. C'est ce fameux grand tableau du jugement des nations. J'avais faim. Moi, non pas mes frères, mes disciples ont eu faim, les hommes ont eu faim, mais moi, j'avais faim. Jésus s'identifie aux plus pauvres, aux persécutés, aux affamés, aux prisonniers, il s'identifie. Donc le chrétien sait que tout ce qu'il fait...
Donc ça, c'est un passage de l'Évangile que vous citez, en l'occurrence.
Oui, c'est le chapitre Matthieu 25, juste avant la passion de Jésus. C'est illustré dans le testament de Shahbaz Bharti, qui était le ministre pakistanais des minorités, ministre du gouvernement, qui a été assassiné récemment parce qu'il avait été visité, justement, une œuvre de miséricorde, était visité, cette petite prisonnière, cette petite maman de 4 enfants qui a été condamnée à mort, qui est en train de mourir dans sa prison parce qu'elle a bu de l'eau normalement réservée aux musulmans.
Asia voilà. Bibi, c'est ça c'est...
Au Pakistan.
Oui. Ça. Comment s'appelle-t-elle déjà? C'est Asia Bibi.
Asia Bibi. Voilà. Alors il a été à visiter et le lendemain, pour le punir, on l'a tué. Et il a laissé un testament admirable en disant « Je ne cherche ni le pouvoir ni l'argent, je cherche juste une petite place au pied de Jésus » pour consoler, aider les plus pauvres, car en chacun, je reconnais Jésus. Et si jamais je serais tué pour cela, j'estimerais que c'est le plus grand des privilèges et le plus grand des honneurs qui me sera fait. Voilà. Alors, voilà justement un chrétien, en tant que chrétien, et qui a cette sorte d'adoration de la personne de Jésus dans le pauvre. Il est présent dans le pauvre. C'est pour ça, par exemple, quand tout s'effondre dans un pays, que c'est le chaos national complet, comme en ce moment au Soudan Sud, en Libye, dans le Congo, Zaïre de l'Est, etc. Quand tout s'écroule, qu'il n'y a plus de salaire, que tous les hôpitaux, toutes les écoles ferment, les seuls qui continuent leur travail sont ceux de l'Église. Par exemple, en Libye, quand la guerre a commencé,
par exemple en Libye. Mais prenez le temps de
réfléchir. Par exemple en Libye, quand la guerre a éclaté, l'évêque catholique a réuni toutes les infirmières, les médecins, les religieuses catholiques en disant « Je vous laisse libre de choisir ou de partir ». Pas un seul n'est parti. Ils ont dit « On reste avec notre peuple d'adoption, on veut partager sa souffrance ». Et donc toutes ces écoles, ces dispensaires sont restés ouverts. Alors que tous ceux de l'État ont complètement disparu. Et je peux donner un grand nombre de cas dans le monde que comme cela, parce qu'on ne travaille pas pour de l'argent, on travaille par amour et pour amour de ces pauvres. Voyez
vous, disiez, d'ailleurs, vous citiez en préparant l'émission l'exemple du Rwanda, où vous vous rendez de temps en temps.
Oui, bien, j'ai vécu très 13 ans au Rwanda. Et il faut rappeler que... ce sont les disciples de Jésus qui ont toujours été les premiers à être présents sur tous les fronts où l'homme souffre, quelle que soit sa forme de souffrance. Tous les premiers hôpitaux, dispensaires, œuvres sociales, maisons de personnes âgées, léproseries, etc., etc., ont tous été ceux de l'Église pendant des siècles. Quand je suis arrivé au Rwanda, 90% des écoles comme des hôpitaux dispensaires, c'était ceux de l'Église. C'est peu à peu que l'État en font ou bien kidnappe ceux de l'Église. Mais c'est une des plus grandes gloires de l'Église. C'est vraiment ces milliards d'actes de générosité, de don de soi, de dévouement, souvent connus de Dieu seul, qui sont comme une constellation qui illumine nos ténèbres. C'est bouleversant quand on réfléchit. Moi qui circule beaucoup, je suis émerveillé de voir le dévouement des baptisés pour les mourants, les agonisants. Mère Teresa, tout le monde la connaît encore un petit peu, mais elle a crevé les écrans, mais elle disait toujours, mais moi je parle, on m'interroge. On m'interview, mais pensez aux milliers d'autres. C'était des milliers de petites Teresa qui sont au fin fond des forêts tropicales, qui sont au fin fond des déserts, etc. Toute leur vie à soigner gratuitement, généreusement, sans aucun salaire, par seul amour, etc. On les oublie trop. Et ceux qui veulent détruire l'Église, il faut leur poser la question, est-ce que tu es prêt à soigner toi, à t'occuper des quelques millions de malades qui vont se retrouver à la rue, si tu veux fermer tous les hôpitaux catholiques dans le monde? Et la même chose pour les écoles. Est-ce que c'est toi qui vas soigner, t'occuper des millions de jeunes et d'ados qui vont se retrouver à la rue? Caractéristique de toutes ces œuvres, c'est d'accueillir tout le monde, quel que soit son rang social, quelle que soit sa religion. C'est impressionnant.
Alors, Père Daniel Ange, l'aumône, c'est donc ce partage.
Parce que ça couvre l'aumône, tu vois.
Voilà, l'aumône, c'est ce partage, donc qui n'est pas le propre partage, des chrétiens, voilà. Mais vous dites que le propre des chrétiens, c'est donc de voir à la lumière de l'Évangile, donc voilà. De voir dans le pauvre la personne du Christ, et vous dites que donc dans toute l'histoire de l'humanité, à vous entendre, en tout cas, les chrétiens sont pionniers en la matière. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités de cette aumône chrétienne? À quoi nous invite l'Église, tout simplement, en cette période de carême?
Eh bien, elle nous invite à partager au maximum nos biens immatériels et spirituels. On va y revenir tout à l'heure, tu vois. Parce que, et pas seulement au niveau des personnes, mais au niveau des nations, nous nous trouvons tout de même dans une situation paradoxale, effroyable. C'est que les pays riches deviennent de plus en plus riches et les pays pauvres de plus en plus pauvres. L'abîme entre les deux, entre le nord et le sud, grosso modo, est bien plus grand qu'il y a 50 ans. Bien plus grand, parce qu'il y a une sorte d'accélération, si tu veux, des prodigieux moyens techniques que nous avons. Et la descente dans le chaos de tant de pays, je pense surtout à l'Afrique subsaharienne, puisque j'y vais chaque année et que j'ai vécu pendant 13 ans. Mais c'est impressionnant. Je vois sur les petites collines, là-bas, c'est le même niveau de vie exactement que celle que j'ai connue moi-même au Rwanda il y a 40 ans. Rien n'a changé. Bon, les infrastructures du pays, bien sûr, il y a des routes goudronnées maintenant, quelques-unes en plus, tout ça. D'accord, d'accord. Mais les petits pauvres sur les collines, c'est comme il y a 50 ans.
Parce qu'on a l'habitude d'entendre dire que le partage, c'est aussi, enfin, c'est pas seulement pour tout simplement être généreux ou prendre soin des autres, mais c'est aussi une manière de rendre à ceux qui manquent de tout, de faire justice.
Bien sûr.
On parle par exemple de la destination universelle des biens.
Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer en fait ce que c'est et en quoi il y a dans l'aumône quelque chose de...
Absolument.
On restaure quelque part la justice de Dieu d'une certaine manière.
Et ça, c'est une des grandes thèses de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et donc ça touche à la justice internationale. C'est une question de justice, pas de charité au mauvais sens du mot, mais simplement de justice, tu vois. C'est effrayant. Par exemple, au niveau de la corruption.
La destination universelle des biens, qu'est-ce que c'est en fait?
Ça relève de la justice.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez pour les auditeurs en fait, qui ne sont pas familiers.
Il y a un partage universel, équitable, entre tous les habitants de la planète, de toutes les richesses de la planète. Alors qu'actuellement, 90% des richesses de la planète sont dans les mains d'une infime minorité de personnes richissimes. Même à l'intérieur d'un pays, je trouve incroyable qu'on laisse des fortunes inimaginables, des millions, des milliards de dollars, etc., puis d'autres qui crèvent de faim dans le même pays. Ça devrait être interdit. Il devrait y avoir un plafond, on n'a pas le droit d'avoir plus de compte en banque que ça, un plafond maximum qu'on ne dépasse pas. Je vois en Russie, etc., c'est incroyable. Après le communisme, eh bien, ce sont tous les oligarques, toute la nomenclature soviétique, qui étaient les seuls, parce qu'ils avaient leur compte en banque à Zurich et à New York, qui pouvaient racheter toutes les usines, etc. Et donc ce sont les oligarques du truc, de tout le système, qui sont de nouveau et encore et les plus riches. Vous comprenez? Des tas d'injustices comme ça, mais c'est à hurler, vous voyez, parce qu'on ne tient pas compte de ce que propose l'Évangile et l'Église. Vous voyez, c'est cette histoire de Jésus tellement impressionnante, du pauvre Lazare qui crève de faim à la porte du riche qui ne voit rien.
Alors rappelez ce que c'est que ce passage d'Évangile pour ceux qui ne connaîtraient pas.
C'est une petite histoire qui a inventé Jésus, mais qui rejoint la réalité, hélas, la terrible réalité au niveau des nations et des personnes. Ben, c'est quelqu'un de richissime qui fait des tas de banquets, etc. Il n'a même pas de nom dans l'Évangile, tandis que le petit pauvre qui crève de faim, qui mendie quelques miettes qui tombent, et on ne lui en donne pas. Et donc il meurt de faim. Alors il meurt de faim et d'épuisement. Et puis au jugement de Dieu, quand le riche meurt... Eh bien, le Seigneur lui demande des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de Lazare, etc. Tu l'as laissé mourir de faim, voilà. Et Lazare est dans le royaume. Et le riche supplie le Seigneur de pouvoir retourner sur terre pour prévenir toute sa famille. Vous voyez, c'est impressionnant. Mais cette histoire, c'est l'actualité constante. Vous avez des gens richissimes, un point incroyable, peut-être, et qui bouffent, qui ont à eux seuls 5%, 10%, je ne me rappelle plus de toutes les statistiques en tête, parce que je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, des richesses de la planète. Regardez la corruption, c'est pour ça que l'annonce de l'Évangile est tellement urgente dans le niveau politique. Regardez le nombre de ministres, de chefs d'État dans certains pays qui empochent tout. Alors on déverse même des grosses sommes, les pays riches, etc. Et puis ça n'arrive pas aux pauvres. Et ces ministres, ils se font construire des palais, etc. etc. Mais c'est anti-évangélique. Oui, moi j'ai prêché un petit déjeuner Abidjan, d'hommes politiques et de généraux et tout ça. On a eu un breakfast prêt, comme on a aux États-Unis, avec toujours le président qui participe. Et j'ai un peu crié ça, parce que je savais que certains ministres, ils empochaient la moitié ou les deux tiers de l'argent reçu des États-Unis ou de différents organismes internationaux, vous voyez.
Voilà, alors on va faire une première...
Là, on est en plein dans l'aumône, mais au niveau international.
Voilà, et puis donc on, évidemment, ça n'empêche pas de faire l'aumône tout à chacun.
Bien sûr.
On va faire une première pause musicale. Donc en tout cas, on a compris avec vous quelle est la particularité de l'aumône chrétienne, donc cette manière de servir Jésus en servant les pauvres, la longue tradition de l'Église sur ce sujet, et le fait que cette aumône, en fait, quand on y est attentif, c'est une manière de restaurer la justice divine dans nos vies, mais aussi à l'échelle des États. On fait une première pause et puis on vous retrouve tout de suite après sur ce thème de l'aumône. Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc avec le père Daniel Ange depuis Pratelon et depuis les montagnes donc d'Albi. Comment s'appellent ces montagnes déjà, père
Lacaune.
Voilà, Lacaune, les montagnes de Lacaune, j'oublie toujours. Voilà donc dans un lieu qui est un ancien petit séminaire où d'ailleurs se sont cachés des personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un lieu de résistance aussi ici.
Oui, tout à fait. Ça a sauvé beaucoup de Juifs.
Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, donc animé d'une certaine manière par le père Daniel Ange, fondateur entre autres donc de l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière, où des jeunes viennent passer ici un an pour se former à la vie chrétienne et pour évangéliser. Et il nous fait l'amitié d'être dans une chapelle orientale, si vous venez ici, magnifique chapelle orientale dans laquelle on est installé pour discuter avec le père Daniel Ange. Alors pour cette émission sur l'aumône, vous vouliez insister sur une autre aumône à laquelle on ne pense pas forcément, qui est celle de l'annonce de l'Évangile, considérant qu'en fait c'est peut-être là la plus grande des charités.
Voilà, parce que la vraie pauvreté, la pire des pauvretés, comme Mère Teresa l'a tellement dit, ce sont les pauvres de foi, les pauvres d'espérance, de joie, de vie, les désespérés, c'est ça, les pauvres d'espérance, c'est ça le pire. Et à quoi ça sert d'aider des personnes ou des pays à augmenter leur niveau de vie économiquement, si dans ces mêmes pays, des tas de gens se suicident par désespoir. À quoi ça sert? On est devant ce paradoxe aujourd'hui, que ce sont les pays les plus riches économiquement qui ont le plus grand nombre de suicides, chez les personnes âgées et chez les jeunes, que ce soit au Canada, en Suède, au Danemark, etc. Voilà, moi j'ai vécu 13 ans en Afrique centrale, j'ai jamais entendu un seul cas de suicide, jamais. Il y a une sorte de joie de vivre dans la pauvreté, la frugalité, la simplicité, etc. Comme si, paradoxalement, l'abondance, la surabondance de moyens étranglait l'espérance. Voilà. L'espérance. Et donc, c'est pour ça que Jean-Paul II n'a cessé de dire que l'évangélisation, c'est-à-dire apporter Jésus et son évangile, apporter la vérité, c'est la première des charités. Quand il est venu à Tours, pour Saint-Martin, qui est un peu le symbole de la charité au sens courant du terme, il partage son manteau, etc. Eh bien, c'est à Tours qu'il va dire ces mots tellement forts. L'évangélisation est le service le plus élevé que le chrétien puisse offrir à son frère. L'annonce passionnée de Jésus à ceux qui ne connaissent pas encore ou qui l'ont oublié, et de manière préférentielle aux pauvres, c'est la toute première des charités. L'espérance habite le cœur de l'homme que lorsqu'il fait l'expérience de Dieu. Il va dire ailleurs, l'annonce de l'évangile est l'acte d'amour suprême à l'égard de l'homme et de sa soif de bonheur. Voilà, il va encore dire que c'est le premier des services humanitaires et social. Parce que justement, faisant rencontrer Jésus son évangile, c'est des tas de jeunes qui ne vont pas se suicider parce que leur sang, leur vie a pris un sens, a pris une signification. Et l'évangélisation fait reculer la frontière de la souffrance humaine, puisque 90% de la souffrance vient du péché, comme j'ai déjà dit. Et le seul qui peut dynamiter le péché en nous, c'est Jésus. Quelqu'un qui est orgueilleux, impur, égoïste, arrogant, injuste, etc., il crée un enfer autour de lui. C'est des gens avec qui c'est infernal de vivre. Et quand cette personne se convertit, il devient doux, humble, serviable. Il crée le paradis autour de lui. Et de manière capillaire comme cela, l'évangélisation peut transformer la vie des gens. Au niveau économique, par exemple, je parlais tout à l'heure du drame de la corruption dans les milieux économiques. Quand tu vis selon l'évangile, tu ne peux pas être quelqu'un de corrompu. Tu vas veiller à la justice, justement, dans le monde économique. Même chose pour l'écologie, je n'ai pas le temps d'aborder. Même chose en politique, être vraiment un humble serviteur du bien commun et ne pas chercher ta petite gloriole, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la première et des urgences, si tu veux stopper cette sorte d'hémorragie, de suicide de jeunes et même d'enfants qui sont désespérés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans nos écoles catholiques, en France, en Belgique, en Hollande, nous avons des jeunes ados franco-françaises pour la France qui partent en djihad en Syrie? Pourquoi? Alors, enquête de la police du 3 mars, c'était dans le monde du 3 mars de cette année, Léa, 14 ans. Moi, je suis parti là-bas parce que je veux être sûr de vivre sur une terre où on peut ressusciter des morts. Voilà, parce qu'elle a appris ça sur son portable en tchatchant avec un beau mec séduisant, bien masculin, etc. Voilà, dans ce qu'elle veut, sa résurrection des morts. Elle a raison. Mais qu'est-ce qui lui a parlé de la vraie résurrection des morts, etc. Une autre, sa copine, 15 ans, pourquoi elle est partie là-bas? Ah, ben on ne peut pas vivre sans religion, donc il faut une religion, et sur une religion, il faut être prêt à mourir martyr. La troisième, moi je suis allé là-bas parce qu'on m'a dit qu'en tuant des chrétiens, j'irai tout droit au paradis. Moi ce que je veux, c'est aller tout droit au paradis. Mais elle a raison qu'il faut aller tout droit au paradis. Mais qui leur a parlé du vrai paradis, vous comprenez? Si elle avait rencontré des jeunes de Jeunesse Lumière ou de notre école d'évangélisation, elle sera en train de se dévouer pour les pauvres, les petits, etc., plutôt que d'aller tuer. Donc il y a une soif d'absolu, un besoin de Dieu, un besoin d'éternité qui est là, et auquel l'Église ne répond pas, ou tellement peu, parce qu'elle n'ose pas. Pourquoi est-ce que tant de jeunes dans nos écoles catholiques deviennent musulmans? C'est parce que les musulmans sont au moins convaincus, ils parlent de religion avec une passion, etc., et les cathos, ils n'osent rien dire, ils frôlent les murs, etc. Ah, surtout, ça va taxer de prosélytisme, même dans les écoles cathos. Dans les écoles en Belgique, où des jeunes musulmans ont arraché la croix, des petites chrétiennes dans des écoles catholiques. Ça va se multiplier. Donc il y a une urgence en ce moment. Mais vous ne pouvez pas imaginer, si vous voulez, cesser d'avoir des jeunes désespérés qui envoient tout plaquer ou qui se droguent, qui rentrent dans des paradis artificiels parce qu'on ne leur propose pas le paradis de l'évangile. Et alors, ces jeunes qui donnent justement toute une année ou deux.
Alors justement, est-ce que vous pouvez, fort de ce constat,
oui.
On va dire, enfin, lourd que vous faites, oui. Et donc de l'urgence de l'annonce de l'évangile, particulièrement à la jeunesse.
Oui.
Voilà, ça va être l'occasion de parler peut-être davantage un petit peu de jeunesse lumière.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les retours? Parce que donc dans le cadre de jeunesse lumière, régulièrement, les étudiants qui viennent ici, ou jeunes professionnels, les jeunes qui viennent ici, pardon, vont évangéliser dans les écoles. Alors peut-être est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, évangéliser dans les écoles, et dire quel est le retour qu'ils ont, comment sont-ils accueillis, et est-ce que de fait, les jeunes se montrent sensibles à leur témoignage. Voilà.
Très très bonne question. Alors il faut dire que notre école est basée sur cette alternance en temps à la maison ici, et quatre fois par an, c'est tournée missionnaire en France ou dans différents pays du monde. Voilà, c'est toute une alternance. Avec la plus grande partie ici, parce qu'ils doivent d'abord s'enraciner, comme on l'a dit, dans la prière, dans l'intimité avec Jésus, pour pouvoir dire... celui que je vous annonce, je l'ai touché de mes mains dans son Eucharistie, je l'ai vu de mes yeux, dans mes frères, j'ai entendu de mes oreilles, de ma parole, dans sa parole. C'est un partage d'expérience, ce n'est pas du blabla. Je parle de mon amour. Jésus a vu tout mon amour, je vous partage ma joie, mon bonheur de l'aimer, c'est quelque chose de fabuleux, etc. Nous partageons ce que nous vivons, sinon c'est du mensonge, voilà. C'est pour ça qu'on met l'accent d'abord sur cet enracinement dans le cœur de Jésus, dans l'évangile. Et puis nous partons, envoyés chaque fois par un évêque, pour montrer que c'est un ordre de mission de l'Église, c'est l'Église qui officiellement, liturgiquement, nous envoie. Et nous partons en petite équipe de 7 ou 8, chacun son minibus pour la France. Quand c'est à l'autre bout du monde, on en va en avion, mais du coup à 3 ou 4 à cause du prix. Et nous donnons la priorité au collège et au lycée pour rencontrer.
Mais alors, comment ça se passe
là où ils sont.
Voilà, quelle est la réaction des élèves? Est-ce que les élèves, de fait, se montrent sensibles à l'annonce de l'évangile et ont soif de cela?
Nous sommes très, très impressionnés par la qualité de l'accueil et de l'écoute. C'est saisissant. Saisissant. Parce que c'est quelque chose de tout neuf pour eux. Tout neuf. Vous comprenez, par exemple, parler de la chasteté, une jeune de leur propre âge, puisque le but c'est une évangélisation intergénération. Donc cette année à l'école, nous avons beaucoup de 18-19 ans qui étaient encore au lycée l'année dernière. Donc c'est vraiment la même génération, ils n'ont pas à s'inculturer, ils connaissent tous les tubes et le langage des jeunes, etc. etc. Ils n'ont pas fait un travail d'inculturation comme un adulte doit le faire. Donc ils sont d'emblée du même pied. Et entendre une jeune de 19 ans parler comment elle a découvert la beauté, la liberté, la joie de la chasteté, c'est une bombe qui éclate, parce que des élèves qui écoutent ne peuvent pas dire « mais t'es complètement débranché, t'es dans le siècle dernier », ce qu'ils peuvent dire un adulte, tu comprends. Donc ils peuvent dire ce qu'un adulte ne peut pas dire, ça ne va pas passer, ça ne va pas passer. Moi ça ne passe pas si je dis ça. Parce qu'on me dit, t'es un curé, c'est normal. Alors
on imagine qu'il y a des moqueries. Il y a des moqueries, mais par exemple, en l'occurrence, ils se montrent sensibles à cette question de la chasteté.
Mais absolument. D'abord, c'est un électrochoc d'entendre des jeunes parler de ça. Et je peux vous donner une anecdote. Dans une école de 3000 élèves, quand on a abordé la chasteté, il y a trois filles qui se sont levées, furax, en nous traitant tous les noms, etc. Pendant le self, après le repas, les trois sont venus voir trois de notre petite équipe en disant « j'étais bouleversé par ce qu'il a dit, devant les garçons j'ai été obligé de frimer, mais je veux que tu m'aides, je veux rester en lien avec toi, que tu m'aides à devenir chaste, parce que c'est ça que mon cœur cherche au fond. » Et quand après 15 jours d'évangélisation dans cette même école, on a vu toutes les classes l'une après l'autre pendant 2 heures chacune, on a lancé l'appel en disant nous partons, mais qui parmi vous veut commencer un groupe de prière d'évangélisation dans votre école? Et ce sont les trois petites rebelles de la première classe, 15 jours avant, qui ont dit nous commençons. Ils ont dit à toute la classe, chaque jour, à 13h15, nous aurons un petit temps de prière à la chapelle. C'est là. Et quand on est retourné dans ce lycée 10 ans après, le groupe existait toujours. Pas les mêmes jeunes, mais le groupe, tu vois. Et donc c'est là où on voit qu'on rejoint l'attente la plus profonde. Ben, ces filles ne vont pas aller en djihad, tu comprends ? Parce qu'elles ont vu qu'on peut vivre quelque chose de fort, d'absolu, d'exigeant, sans forcément aller tuer des chrétiens en Irak.
Alors là, pour relier donc au thème de ce carême, donc oui. sur l'aumône, en l'occurrence, vous incitez donc nos auditeurs à être des apôtres, hein, à vous entendre, à évangéliser.
Ah oui, absolument.
Tout le monde ne peut pas venir faire l'école Jeunesse Lumière. Qu'est-ce que chacun peut faire dans ces cas-là pour cette annonce de l'Évangile ? Qu'est-ce que vous auriez comme piste à donner à nos auditeurs pour annoncer l'Évangile à l'occasion de ce carême ?
Eh bien, je pense qu'ils doivent faire tout pour qu'autour d'eux, dans leur famille, leur milieu professionnel, leur travail, leurs études, ils arrivent délicatement, mais franchement aussi, à partager quelque chose de leur bonheur, de croire et d'aimer Jésus. On ne veut pas garder pour nous son bonheur quand l'autre va mourir de soif ou de faim spirituelle, tu comprends ? Le suicide, c'est une mort par désespoir, par faim spirituelle. Tu comprends, c'est comme ça que...
C'est pas toujours une mort par faim spirituelle, c'est parfois les conséquences d'une maladie psychologique ou autre.
Oui, bien sûr, des cas, mais d'habitude, c'est le désespoir. La vie n'a aucun sens, qu'est-ce que je fous ici ? Trop de souffrance, je me flingue, tu comprends, je me flingue. Et quelquefois, on a des remontées, parce qu'on reçoit pas mal de lettres de jeunes après notre passage, quelques semaines, quelques mois après. Eh bien, je peux en citer toute une série... Où un garçon, une fille va dire « J'étais décidé à me flinguer, depuis que vous êtes passé, j'ai retrouvé la joie de vivre, le sens de la vie, etc. » Ça, je peux citer des tas de lettres comme ça, donc ça porte des fruits, vous voyez. Moi, ma nouvelle vocation à l'intérieur de ma vocation monastique...
Alors voilà, racontez peut-être cette histoire pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, puisque vous étiez ermite... Vous avez été moine donc pendant...
J'ai eu 30 ans de vie monastique, érémitique, et puis j'étais...
Vous n'avez pas été ermite pendant 30 ans ?
En petite communauté, enfin une vie monastique, dont 7 ans de vie, voilà. Et quand je suis rentré
7 ans de vie en ermitage, en France.
Voilà. Et quand je suis rentré d'Afrique, j'ai eu un électrochoc de voir ce virus du désespoir dans nos écoles, etc., tous ces jeunes se droguant et tout ça, que j'ai dit à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà. Et l'attente a duré 7 années, voilà, où je posais tout le temps cette question.
Et racontez cette histoire, quand vous alliez bénir les villes au loin avec le Saint-Sacrement.
C'était très beau. Alors un jour, même souvent l'hiver, je montais sur les sommets enneigés pour arriver au lever du soleil, parce que le soleil n'arrivait qu'à à midi dans ma vallée. Donc pour économiser du bois à couper, je montais sur les sommets. Et là, je me souviens, j'arrivais, il était 4h du matin, 5h du matin, je voyais toutes les petites lumières de Nice, Monte-Carlo, Cannes et tout ça. Et je me disais, moi j'ai tout, la parole de Dieu, le pardon de Dieu, le corps et le sang de Dieu, la plus grande famille qui existe sur terre, l'Église, dans le monde entier, je peux retrouver ma famille, des frères de chair et de sang de Jésus, etc. J'ai tout. Plus heureux tu meurs, un maximum de bonheur. Et là-bas, je savais qu'on se flinguait chaque nuit ou qu'on détruisait l'amour dans toutes les sex shops, ces boîtes de nuit, toutes les rues de prostitution, etc. Et donc, toute mon question, c'était comment faire passer ce courant de vie, d'amour, de joie, de beauté, de bonheur, depuis l'autel où l'amour se donne en plénitude jusqu'à tous ces bordels où on détruit l'amour et où on en meurt, toutes ces maladies sexuelles, mortelles, etc. Donc c'est la vie et la mort. Voilà, comment faire passer.
Sachant qu'il n'y a pas que ça dans les villes la nuit, mais bon, en tout cas, il y a cette réalité-là.
Mais bien sûr qu'il y a ça. Voilà. Ben, on le sait trop, encore en France, comparé à d'autres pays, c'est un peu mieux. Et donc, c'est comment partager. Moi, je ne peux pas garder pour moi ce bonheur sans au moins le proposer. Ce n'est pas l'imposer, c'est proposer un chemin de bonheur, un chemin de liberté. C'est offrir, ça c'est l'aumône, tu comprends. Tu partages ce qui t'est le plus précieux, ce qui te fait vivre. Et en plus, tu donnes les moyens d'aller au ciel, d'aller dans un monde monde où il n'y a plus l'ombre du mal, du péché et de la souffrance, dans une éternité de joie, une éternité de bonheur. Tu donnes le visa pour y aller, tu donnes tous les moyens pour y aller. Donc tu assures le futur, l'avenir de tous ces gens qui pensent que la mort, c'est la mort, c'est un mur de béton contre lequel on va se fracasser le crâne et il n'y a plus rien après. On comprend qu'on soit désespéré. Je ne croirais pas au ciel, je me flinquerais aussi devant tant et tant de souffrance. Si Jésus n'existait pas pour me sauver et me pardonner et m'ouvrir le ciel, ben je me flingue. La vie n'a plus aucun sens. Et au niveau social, au niveau des nations, c'est la même chose. Dieu marginalisé, mis de côté, Dieu exclu, c'est l'homme perdu. C'est Hiroshima, c'est Auschwitz, c'est Dachau, une société sans Dieu et complètement déshumanisante. Quand on ne sait plus qui est Dieu, on ne sait plus qui est l'homme. Regardez le gender actuellement, etc. où le pape dit que c'est pire que la bombe atomique. Mais si on ne fait rien, on laisse tout faire. Einstein disait, le plus grand crime, c'est de laisser faire le mal. C'est de laisser faire, on ne fait rien. Voilà. Et là, c'est un crime spirituel, je m'excuse. M'excuse, quand on sait tout ce qu'on peut donner et partager, et qu'on le garde égoïstement pour soi, etc. Et ça ne coûte rien de proposer. On propose le mal, mais regardez un peu la pornographie qui va entraîner la prostitution internationale, la vente des enfants et les enfants esclaves sexuels. Tout ça, ça vient par la pornographie. Et tu fais rien. Moi, je trouve ça aberrant.
Voilà, Père Daniel Ange, en tout cas...
Je m'excuse de me fâcher un peu.
Mais vous avez raison de vous fâcher.
C'est par souffrance,
en tout cas,
je souffre de voir tant de souffrance.
On vient aussi donc ici à Pratelon parce qu'on sait... On sait que vous osez justement dire tout haut ce que tout le monde n'ose pas dire et que c'est une grâce prophétique en fait qui vous est enfin voilà que vous exprimez. Merci beaucoup en tout cas. On fait une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve pour finir pour cette émission sur l'aumône.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc depuis Pratelon, pardon, dans le diocèse d'Albi, donc où nous retrouvons le Père Daniel Ange. Donc le Père Daniel Ange, pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui prendraient l'émission en cours de route, qui est donc un ancien moine qui a été ermite et qui s'est senti appelé par Dieu à fonder cette école d'évangélisation, donc perdue dans les montagnes de la Cône. J'y arrive. Les montagnes de la Cône, où se trouve donc aujourd'hui cette école d'évangélisation à Pratelon, et on est dans une petite chapelle orientale avec le Père Daniel Ange pour cette émission de Carême, la troisième, sur l'aumône. Alors à la fin de cette émission, après avoir vu dans la première partie la particularité de l'aumône chrétienne, du partage chrétien, de son importance dans l'histoire. Et puis, dans la deuxième partie, en fait, cette urgence que vous, sur laquelle vous avez lourdement insisté, quitte à pousser ce coup de gueule qui a été le vôtre, quant à l'urgence de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. On imagine que ça vous tient à cœur, compte tenu de votre engagement dans cette école d'évangélisation, Jeunesse Lumière. Vous vouliez insister sur peut-être un aspect auquel on ne penserait pas forcément de l'aumône, qui est un peu l'aumône pour soi. Alors, en introduction de cette partie, vous vouliez revenir sur le jubilé de la miséricorde. Voilà, le pape François, l'année dernière, a lancé un grand jubilé de la miséricorde sur toute la planète, avec des portes de la miséricorde, portes de la miséricorde qui ont même été délocalisées dans les diocèses. Parfois, il y a des portes volantes pour annoncer la miséricorde de Dieu. Quel lien vous faites avec l'aumône, et pourquoi revenir sur cet événement?
Voilà. Alors, il faut revenir à la miséricorde. Alors, la miséricorde n'est pas éternelle. L'amour est éternel. Et l'amour est devenu miséricorde quand est apparue la misère. Le mot veut dire cœur qui s'ouvre à la misère. Tant qu'il n'y avait pas de misère, c'était l'amour à l'état pur. Et quand est arrivé ce drame qui est le séisme originel qui a fissuré toute la création, ce qu'on appelle techniquement le péché originel, c'est-à-dire le péché prototype qui va engendrer tous les autres, Dieu a été tellement bouleversé qu'il est entré en rébellion. Dieu est le premier rebelle, le premier révolutionnaire. Il s'est révolté. Il s'est révolté contre Satan, qui avait abîmé à ce point sa création. Pas complètement, mais même beaucoup, beaucoup abîmé. Voilà. Entre autres, avec justement ces péchés qui vont entraîner tellement, tellement de souffrances, comme on l'a déjà dit. Et donc, il va venir lui-même en personne sur Terre, parce qu'il a tout fait d'abord pour éviter que l'homme se perde, pour ouvrir le royaume, pour lui rendre sa gloire. Il a envoyé des anges, on ne les a pas écoutés, les prophètes, on les a zigouillés, ou presque. Et donc, il vient en personne. Et c'est le Fils de Dieu qui devient Jésus, qui va partager toute mon existence, toutes les souffrances possible et imaginable de ma vie, toutes les joies aussi. C'est un Dieu qui a tout partagé, voilà, jusqu'à traverser notre mort pour déboucher sur une éternité de vie, voilà, et pour nous entraîner avec lui au royaume. Et au Jardin des Oliviers, c'est ce duel justement de la miséricorde.
Donc le Jardin des Oliviers, c'est le moment où Jésus dans les évangiles,
voilà,
souffre son agonie. Voilà.
Voilà, il est comme face à face.
Et il est tenté par le diable.
Voilà, il n'est pas face à face avec Satan. Et finalement, apparemment, c'est Jésus qui est tué, mais il ressuscite, ce qui veut dire que lui va tuer dans sa chair la haine. C'est écrit texto dans la Bible, Jésus a tué, c'est un tueur, c'est un assassin, c'est un meurtrier. Mais qu'est-ce qu'il a tué? Il a tué le péché. Il a tué la haine, donc l'orgueil, la jalousie, l'impureté, l'égoïsme, tout ce que vous voulez, etc. Et donc c'est le seul qui peut détruire le péché en nous à travers son pardon. Et ça c'est une révolution incroyable. Parce que le plus grand des pécheurs fut-il un assassin, comme celui qu'on appelle le bon larron, le gangster sur la croix, peut complètement changer de vie en rencontrant Jésus, en demandant son pardon. Et encore là, je reviens sur l'évangélisation, première œuvre de miséricorde, parce que personne ne va prendre conscience de son péché, ne va venir se jeter dans les bras de Dieu s'il ne connaît pas Dieu. Donc première œuvre de miséricorde, c'est d'abord d'annoncer cette chose formidable. Je peux aller au ciel, quel que soit mon péché, en demandant le pardon de Jésus. Mais pour ça, je dois devoir annoncer Jésus, vous voyez. Voilà.
Alors quel est le rapport avec l'aumône? C'est-à-dire, à vous entendre, en fait, la première aumône, c'est Dieu qui l'a faite, en fait, en faisant homme, c'est ça?
Exactement.
Et en partageant notre vie, c'est en nous permettant d'entrer dans le pardon, c'est
exactement,
ça?
Exactement. Et en partageant toute sa vie, en partageant toute sa gloire, en partageant son bonheur infini. Au ciel, il veut tout partager avec nous, pauvres petits bons hommes. Il a tout partagé, il n'a rien gardé pour lui. Il a partagé tout dans ses miracles, sa parole, il a donné la vérité, il nous a donné sa maman comme maman, il nous a donné son Père du ciel pour être notre papa au ciel. Il a tout partagé, il n'a rien gardé pour lui. Donc c'est le modèle parfait de l'aumône, vous voyez, tout partagé. Et entre autres, cette merveille de la réconciliation avec le ciel, avec ce pardon. C'est pour ça qu'il a versé tout son sang en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a fait descendre tous les pardons du ciel. Et là, on assiste à des miracles de pardon. Je vois au Rwanda.
Alors, vous pouvez faire écho justement à l'année de la miséricorde, puisqu'il y a eu un certain nombre d'événements, entre autres au Rwanda, à l'occasion de l'année de la miséricorde. Mais peut-être vous pouvez
alors,
en parler.
Alors, au Rwanda, où il y a eu cette atroce guerre civile, qui a fait ce génocide qui a fait 800 000 morts en 2 mois, en 3 mois, un truc absolument satanique, et bien maintenant, les merveilles de pardon. Moi, je vois telle jeune fille que je connais qui renonce à continuer ses études, ou qui renonce à gagner bien sa vie, parce qu'elle donne tout son temps pour avoir adopté, pour éduquer les enfants dont les parents ont tué ses propres parents. Ensuite, ont été tués. Et donc, ils adoptent les orphelins de ceux qui ont tué leurs parents. C'est la vengeance de l'amour, des cas comme ça. Et pendant ce génocide, dont les médias n'ont parlé que des horreurs, personne n'a parlé des splendeurs, des actes de dévouement, de générosité, de don de soi. Je prends un exemple entre des centaines. La petite Félicitas Nitegeka. Alors, elle a caché 49 jeunes filles de l'autre ethnie que la sienne, puis c'était une guerre ethnique. Elle les faisait passer secrètement à la frontière quand il n'y avait pas de lune, c'était archi dangereux, pour aller au Zaïre et être sauvée. Et un jour, l'armée arrive, découvre ces 49 qui restaient encore dans sa cave, et lui dit, ben écoute, ça tombe bien pour toi, notre colonel, c'est ton frère, voilà sa jeep, il nous a envoyé te chercher, il t'attend à déjeuner. Pendant ce temps, nous allons zigouiller toutes ces bestioles que tu as eues, comme ça qu'on disait, Inyenzi, toutes les bestioles que tu as eues la stupidité de protéger. Elle a répondu un mot écrit, c'est le seul relique qu'on a encore d'elle, un petit bout de papier, c'est bouleversant, je l'ai vu, où elle dit en gros, mon frère, tu es en train de créer l'enfer sur la terre, je ne veux pas que tu ailles en enfer, je veux qu'on se retrouve au ciel avec maman. Mais tu ne m'arracheras jamais aux jeunes filles, mes sœurs en Christ, que j'ai protégées. Ou bien tu me tues avec elles, ou bien tu les épargnes toutes. Et 3 fois de suite, un soldat arrive, la suppliant de venir vers son frère. 3 fois de suite, elle refuse. Elle creuse elle-même leur fosse commune. Et puis, elle entend les litanies de la Vierge et elle est tuée, la dernière, des 49. Voilà. Ça, c'est un acte héroïque. Il y en a eu des centaines comme ça, dont personne n'a jamais parlé. Je suis en train de préparer un livre là-dessus.
Alors, peut-être
il s'appellera Au fond de l'enfer, le ciel ouvert. J'ai vu que la même chose au Liban. En pleine guerre, dans les horreurs, tu as des splendeurs. Où vraiment, tu vois, l'Esprit Saint plus puissant que nos fragilités et que nos faiblesses. Des actes de pure charité divine, d'héroïsme, etc. Les 40 petits collégiens à Bouta, au Burundi, dans leur dortoir, 5 heures du matin, les rebelles les obligent à se séparer par ethnie. Pas un n'a accepté. Et le rebelle précise, si vous obéissez, seulement 50% seront tués et les autres seront libres, parce qu'ils étaient 50-50 dans l'école. Pas un n'a accepté d'être séparé de ses frères. Ils ont dit, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Vous ne nous séparez jamais. Ils ont entonné notre Père. On en a tué 40 dans leur dortoir. J'ai vu les balles dans les briques du dortoir actuel. Mais il faut les canoniser à toute vitesse pour le faire connaître au monde entier.
Père Daniel Ange, oui, comme l'émission touche à sa fin, voilà. Peut-être pour essayer de faire atterrir, si je peux me permettre, hein, oui, sans vouloir être indélicat, voilà, cette émission, puisque pour chacun chacune des parties, vous avez eu des accents vraiment profondément prophétiques, hein, je crois qu'on peut le dire. La première partie, vous avez dit donc l'immensité de la charité chrétienne à travers les siècles, après l'urgence de l'annonce, et là vous nous dites en fait, comment dire, l'immensité aussi de la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Comment, alors nous, pauvres quidam lambda, qui ne sommes pas confrontés aujourd'hui parfois à des situations aussi extrêmes, comment se mettre en route et pas seulement avoir l'impression de rater son carême parce qu'on s'est contenté de quelques petites privations et d'avoir partagé un petit peu d'argent.
Voilà. Alors moi je crois que le partage financier, quand on le peut, même au prix de se priver de certaines choses, voilà, je ne vais pas aller au cinéma pendant le carême, donc je fais une bonne économie, je ne vais pas fumer, donc je fais une bonne économie de tabac, je ne vais pas prendre de dessert, je fais une bonne économie de yaourt et de fruits, je ne sais pas quoi. On peut faire des économies en jeûnant, voilà. Et quand j'aide financièrement une de ces nombreuses œuvres qui frappent à notre porte, chacun reçoit dans son courrier, je ne sais pas combien, des œuvres admirables, nous pouvons même sauver des vies entières, nous pouvons sauver des enfants d'une mort par la faim, nous pouvons creuser des puits qui vont permettre à des gens de ne pas mourir de soif, etc., au niveau maladie, etc., encore plus. Je pense au Liban, c'est le pays de mon cœur, après le Rwanda. Le Liban vient d'accueillir en quelques mois 2 millions de réfugiés syriens.
Années plutôt, oui, parce que le conflit n'a pas commencé il y a quelques mois. Le conflit syrien n'a pas commencé il y a quelques mois.
Non, quelques depuis années. trois ans, voilà. Mais tout de même, c'est énorme. Pour 4 millions d'habitants. C'est comme si en France, on accueillait 30 millions de réfugiés. 30 millions. C'est vrai. Et les Libanais donnent un exemple de charité divine extraordinaire, alors qu'ils savent que c'est risqué, dangereux, parce qu'il y a des djihadistes infiltrés et qui peuvent mettre le pays à feu et à sang, comme ça a été fait 30 ans avant. Ils savent ça, et malgré tout, c'est un accueil extraordinaire dans les familles, dans les maisons, etc. Ils ont ouvert toutes les écoles avec le problème d'un décalage de 4-5 ans de niveau scolaire, parce que ces pauvres Syriens n'ont plus d'école depuis 5 ans. Donc les professeurs donnent gratuitement, ils donnent en double. Les Libanais, c'est le matin, tous les réfugiés, c'est l'après-midi, vu le décalage, ça ne peut pas être les mêmes cours.
Et le rapport avec nous, alors, là-dedans?
Eh bien, le rapport avec nous, c'est qu'en donnant financièrement à une œuvre, je peux sauver des vies. Ou en donnant du temps. Par exemple, quelqu'un qui m'en dit, dans la rue, tu ne peux peut-être pas lui trouver tout de suite un logement, un travail, etc. Mais tu peux t'asseoir, tu lui donnes tes précieuses minutes, tu t'assois à côté de lui, tu demandes son prénom, tu tchatches un peu, et ça le touche beaucoup plus qu'un billet de 20 ou de 50 euros, parce que tu lui donnes du temps, tu le considères comme une personne. Voilà, là aussi. Et puis tous ces jeunes qui donnent 1-2 ans en service humanitaire, qui partent à l'autre bout du monde, c'est de l'aumône aussi. Les jeunes qui donnent 1 ou 2 ans, alors qu'ils pourraient faire tant de choses passionnantes par ailleurs, à une école d'évangélisation, eh bien, c'est de l'aumône aussi. Ils donnent quelque chose de leur vie, de ce précieux temps, de leur peu d'années sur terre, leur peu d'années de jeunesse, ils le donnent gratuitement, généreusement, donc joyeusement, pour apporter Jésus. Tu comprends? Et ça, c'est l'aumône au sens large. C'est quelque chose de magnifique, admirable. Il y a une générosité, entre autres, chez les jeunes aujourd'hui, sidérante, et qui émerveille Dieu. Encore, nous ne connaissons que 2% de ce qui se passe vraiment. Mais déjà, on en est émerveillé. Voilà, c'est les constellations qui illuminent nos ténèbres. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Père Daniel Ange, pour cette émission. Donc, je rappelle, en direct de Jeunesse Lumière, donc à Pratelon, dans les monts de la Cône, dans le diocèse d'Albi. On entend la cloche sonner, et donc ça tombe bien parce que c'est l'heure de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Père Daniel Ange.
Joyeuse montée vers Pâques pour tous et chacun.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook.